N'hésite pas, sinon ça sera mieux.
Bien, bonjour à tous, à toutes.
Bonjour.
Je me présente, je m'appelle Claude Bloch, je suis né le 1er novembre 1928 à Lyon. Donc en 1939, le 1er septembre, les Allemands, l'armée allemande, entre en Pologne sans déclaration de guerre, sans rien. La France et l'Angleterre, qui ont des accords d'assistance à ce pays en cas de problème, déclarent aussitôt la guerre à l'Allemagne. Et on entre dans le conflit le 3 septembre 1939. Au début, il ne se passe rien sur le front, on va l'appeler la drôle de guerre, mais cela jusqu'au 10 mai 1940. Ce jour-là, les Allemands lancent une grande offensive et en passant par la Belgique et la Hollande, commencent à envahir très vite notre pays. Notre gouvernement de Paris va s'installer à Bordeaux et on voit arriver les Allemands ici à Lyon, fin mai 1940. Début juin 40, le maréchal Pétain est nommé chef du gouvernement. Et le 17 juin, il va prononcer une allocution à la radio, à l'époque il n'y avait pas la télévision, il va prononcer une allocution à la radio pour nous dire, entre autres, vu la situation militaire, on n'a pas d'autre solution que de demander un armistice à nos adversaires. C'est ce qu'il va faire et le 22 juin, il va signer un armistice qui prévoit, au point de vue territorial, que la France va être coupée en deux. D'une part, toute la côte atlantique des Pyrénées jusqu'en Bretagne et le nord de la Loire sera occupée par les Allemands qui vont s'y installer. On parlera de zone occupée ou de zone nord. Et le sud de la Loire, dont fait partie Lyon, sera dite zone libre et administré par le gouvernement Pétain, qui de Bordeaux va s'installer à Vichy. Le 10 juillet 40, Pétain demande les pleins pouvoirs au Parlement, députés et sénateurs. Il les obtient facilement, puisque seuls 80 parlementaires vont les lui refuser. Il a donc les pleins pouvoirs, dissout la Troisième République, et proclame l'État français, qui deviendra un État dictatorial. 3 octobre 1940, toujours, sans demande des Allemands, ce gouvernement Pétain va promulguer la première loi anti-juive qui prévoit au point de vue professionnel que les Juifs ne doivent plus exercer de profession dans les lieux publics, les administrations. Ma mère, qui est veuve depuis 1938, mon père était mort en 1938, avait trouvé un emploi à la préfecture du Rhône en septembre 1939. Elle a donc dû le quitter à la suite de cette loi. 1941, un événement important, le 7 décembre, l'aviation japonaise, le Japon étant allié de l'Allemagne et de l'Italie, on appellera ces trois pays l'axe, l'aviation japonaise va bombarder la flotte américaine à Pearl Harbor. Or, les Américains officiellement n'étaient pas entrés dans le conflit. Le président Roosevelt s'y opposait. Mais à partir de cette date, ils sont entrés dans le conflit. Ils étaient pratiquement obligés. Le 20 janvier 1942, vont se réunir à Wannsee, une banlieue de Berlin, des hauts dignitaires nazis pour discuter principalement, pour ne pas dire uniquement, d'un problème qui les préoccupait beaucoup, comment arriver à la solution finale du problème juif. Ce qui, dans leur esprit, voulait dire comment arriver à l'extermination des Juifs. Dans leur esprit, en 1942, ils étaient sûrs qu'ils allaient gagner la guerre. Et ils ont décidé, autour de cette conférence, qu'en 1949, plus aucun Juif ne devra survivre en Europe. Ils vont donc discuter des moyens d'y arriver. 8 novembre, toujours 1942, les Anglo-Américains débarquent en Algérie. Aussitôt, les Allemands, prenant prétexte que puisqu'ils sont en Algérie, ils peuvent très bien arriver en France par la côte méditerranéenne, décident unilatéralement d'occuper entièrement notre pays. Et on les voit arriver à Lyon le 11 novembre 1942. Ils occupent donc notre pays, à l'exception toutefois des Savoies, d'une partie du Dauphiné et du comté de Nice qu'ils vont donner comme zone d'occupation à leurs alliés les Italiens. 1943 va être créée en janvier par le gouvernement de Vichy la milice française. Cette milice sera une police supplétive dans laquelle vont s'engager volontairement des jeunes Français et qui sera chargée plus particulièrement, entre guillemets, de la chasse aux résistants qui vont appeler les terroristes, des juifs, des communistes, des francs-maçons, etc. En février 1943, à la demande des Allemands cette fois, va être créé en France le STO, le service du travail obligatoire en Allemagne. En effet, les Allemands ont leurs hommes mobilisés dans leurs armées, ils sont face aux Anglo-Américains et face aux Soviétiques à ce moment-là, donc ils ont besoin de main-d'œuvre. Et à la suite de ça, tous les hommes français nés en 1920, 21 et 22 doivent partir travailler en Allemagne. Certains vont y aller, d'autres vont se cacher pour ne pas y aller. Une troisième catégorie va entrer dans les maquis, ce qui va renforcer la résistance. Septembre 1943, les Italiens, dont le pays commence à être envahi par les Anglo-Américains qui y ont débarqué dans le sud, demandent un armistice séparé à ces derniers. Ils l'obtiennent et rentrent chez eux en Italie, les Allemands prenant leur place dans leur zone d'occupation des Savoies, du Dauphiné et du comté de Nice, ce qui va entraîner un drame plus tard. Entre-temps, les Juifs ont été tenus de se déclarer en mairie ou dans les commissariats de police comme étant Juifs, moyennant quoi il était apposé sur les cartes d'identité le tampon juif. En zone sud, il n'y a eu que ça. En zone nord, en zone occupée, ils ont eu l'étoile jaune à porter. Mais tout de suite, au début de l'occupation, à partir là de 6 ans, il va y avoir une étoile jaune cousue sur leurs vêtements. Mais dans la zone sud, ici, ça n'a jamais été imposé. Donc il y avait un tampon juif sur les cartes d'identité de ceux qui s'étaient déclarés. Mais mes grands-parents, ma mère, ne se sont pas déclarés. Le 1er novembre 1943, j'atteins l'âge de 15 ans. À partir de cet âge, on est tenu d'avoir une carte d'identité. Elles sont établies par les préfectures à la main, c'est-à-dire une plume trempée dans l'encre et écrite manuscritement. Donc j'ai eu cette carte d'identité, mais sans le tampon juif. Ma famille ne s'était pas déclarée, ils n'ont pas fait de rapprochement, donc je n'ai pas eu de tampon sur cette carte d'identité que mon grand-père a habilement maquillé en changeant le O en A et en ajoutant ET à la fin. Ce qui fait qu'en réalité, j'ai une carte d'identité avec tous les tampons officiels de la préfecture au nom de Blachet. En février 1944, ma grand-mère apprend, je ne sais comment, qu'il risque d'y avoir des rafles de juifs à Lyon. Aussitôt, il est décidé par mes grands-parents et ma mère de quitter les appartements qu'on occupe à Lyon et de chercher à se loger, mais en banlieue immédiate de Lyon. Parce qu'on ne pouvait pas s'éloigner de Lyon, ma mère travaillait. Il fallait bien qu'elle continue à travailler, c'est la seule qui apportait encore un salaire dans la famille et on pouvait vivre qu'avec ce salaire parce que tous les comptes en banque des Juifs avaient été bloqués. On n'avait plus le droit d'y toucher. On n'avait plus de compte en banque. Tout ce qu'on avait en banque, c'était ça y restait. Donc il fallait absolument qu'elle travaille. Moi, depuis 2 ans, j'allais à l'école de la Martinière, dans le quartier des Terreaux. Il fallait bien que je continue mes études. J'avais 15 ans. Donc on a trouvé des gens qui nous ont loué 3 pièces au premier étage de leur villa à Crépieux. Crépieux qui est à l'entrée, là, tout de suite après Lyon. Bon, il y a une partie qui a Luire, après Crépieux. Donc on est allé s'installer à Crépieux, qui maintenant fait partie de la commune de Rieux-la-Pape. À l'époque, c'était une commune autonome. Et chaque matin, avec ma mère, on prenait le bus de bonne heure le matin à 6h30. Il y en avait un peut-être toutes les heures pour venir à Lyon. Elle partait travailler et moi, j'allais à la Martinière. Et le soir, je rentrais souvent seul. On n'avait pas les mêmes horaires, ma mère et moi. Donc je reprenais ce bus au Cordelier qui me ramenait à Crépieux. Mais de temps à autre, il est arrêté en cours de route. Et soit la police, la milice ou la Gestapo montaient à bord pour vérifier les pièces d'identité. Alors on était très nombreux. Il y en avait un toutes les heures, donc les jeunes, on était naturellement debout. Nous, des étudiants comme moi, on avait nos cartables posés par terre entre nos pieds. Et ils montaient et ils se faufilaient comme ils pouvaient à travers tout le monde. Ils n'ont jamais vu que ma carte d'identité était maquillée. Et pourtant, je n'étais pas tranquille. J'étais pas tranquille non pas parce que j'avais peur qu'ils voient qu'elle était maquillée, mais c'est parce que j'avais mon cartable à mes pieds. Alors pourquoi ce cartable m'inquiétait? Eh bien, j'étais rentré à la Martinière 2 ans plus tôt sous mon vrai nom. Et mes cahiers et mes livres dans ce cartable étaient étiquetés à mon vrai nom. J'avais pas pu leur dire que j'avais changé de nom du jour au lendemain. Donc j'avais toujours peur qu'ils me fassent ouvrir ce cartable pour voir ce qu'il y avait dedans. À ce moment-là, ils auraient vu que les deux noms, cartable et pièce d'identité, ne correspondaient pas. Enfin, ça ne s'est jamais produit. Donc, tout se passait bien. Je vous ai dit tout à l'heure qu'en 1943, que les Italiens avaient demandé un armistice. Ça, c'est pareil, je vous l'ai dit, ça. Oui, hein. Donc, en 1943, donc, il y a eu ça, qui a causé un drame plus tard. Oui, je vous l'ai dit. Est-ce que vous avez entendu parler des enfants d'Isieux? Oui. Donc le drame que j'évoquais, c'était l'affaire Dizieux. Donc je passe puisque vous êtes au courant. Tout le monde est au courant?
Non.
Ah non. Alors Jean parle. Alors donc, lorsque les Allemands sont arrivés à Lyon, ils se sont installés. D'abord leur premier siège, ça a été très bref, ça a été l'hôtel Terminus à Perrache. Hein, aujourd'hui c'est le château Perrache. Et après, ils sont venus ici dans les bâtiments de l'école de santé militaire qu'ils ont réquisitionné. Leur chef, c'était Barbie. Et Barbie, qui était un nazi, a appris l'existence de ce camp de Dizieux, où une famille d'origine polonaise avait installé des jeunes enfants juifs, le plus jeune avait 4 ans. Il s'est installé là. Ce couple de Polonais s'appelait Monsieur et Madame Zlatin. Donc ils s'étaient installés là, en zone d'occupation italienne, et le sous-préfet leur avait dit à l'époque, vous pouvez vous installer, vous serez tranquille, les Italiens s'occupent absolument pas de ce que les nazis allemands appellent la question juive, donc vous pouvez vous installer là, vous serez tranquille. C'est ce qui s'est passé jusqu'en septembre 1943. Mais lorsque les Italiens sont partis, et Barbie, qui était à Lyon, a appris l'existence de cette colonie. Et le 6 avril 1944, il a décidé d'envoyer 2 camions et des soldats chercher les 44 enfants, le plus jeune avait 4 ans, à Isieux, les 7 moniteurs et le couple Zlatin. Le couple Zlatin, il n'y avait que le monsieur Zlatin. Madame Zlatin n'était pas là ce jour-là. Donc ils ont emmené les 44 enfants, les 7 moniteurs et le directeur à la prison Montluc, où ils ont passé la nuit du 6 au 7 avril. Le 7 avril, ils les ont emmenés dans un camp dans la banlieue parisienne Drancy, dont on reparlera tout à l'heure. Ils les ont amenés dans ce camp qu'ils avaient créé pour rassembler les Juifs dans le but de les emmener ailleurs par la suite. Donc, ils ont amené ses enfants le 7 avril à Drancy, et à partir du 13 avril, parce que ça s'est fait en 3-4 convois successifs, le 13 avril, ils ont emmené une partie de ces 44 enfants, les 7 moniteurs et le directeur de la colonie, à Auschwitz, où ils ont tous été gazés. Il en a été de même pour les enfants qui étaient restés à Drancy jusqu'à leur déportation à Auschwitz. Il n'y a pas eu de survivants parmi les enfants. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire en passant. Le début mai 1944, on s'est dit qu'on avait bien fait de quitter Lyon, parce que la porte de l'appartement de mes grands-parents a été forcée par la milice, qui ont pillé tout ce qu'il y avait à l'intérieur, et en ont fait des bureaux pratiquement jusqu'à la libération de Lyon. Donc on aurait été là, à ce moment-là, on aurait été arrêté ce jour-là. Le 26 mai, bombardement de Lyon par les Américains qui visaient les voies ferrées. Donc ils ont bombardé surtout le quartier de Vaise, où ils ont atteint un peu les voies ferrées en faisant beaucoup de dégâts autour. Mais ici, dans ce quartier, ils visaient la voie ferrée qui est parallèle à l'avenue Berthelot. Ils ne l'ont pas atteinte. Mais par contre, tous les immeubles du quartier ont souffert de ce bombardement et entre autres cette école de santé militaire qui était le siège de la Gestapo à l'époque, qui était en partie détruite. Et la Gestapo est partie s'installer dans un immeuble qu'ils ont réquisitionné au 32 place Bellecour, à l'angle de ce qui est aujourd'hui la rue Saint-Exupéry. Ça, c'était donc le 26 mai 1944. Le 6 juin, débarquement des Alliés en Normandie. Là, on a repris un peu espoir, parce qu'on avait à Lyon un avantage, c'est d'avoir des informations exactes sur ce qui se passait sur les différents fronts. Parce que si la radio, les journaux français subissaient la censure, ne pouvaient pas tout dire, si Radio Londres, on arrivait à capter, mais très mal sur nos postes de radio, on avait l'avantage à Lyon de capter très bien Radio Genève. Et par ce biais, on avait des informations, on savait ce qui se passait, et on a repris espoir. On s'est dit, bon, les Anglo-Américains sont en France, ils s'y maintiennent, ils avancent pas très vite au début, mais enfin, ils sont là. Peut-être que c'est bientôt la fin de cette guerre et qu'on va échapper à tout ce qu'on risque. Parce qu'on savait, surtout mes grands-parents et ma mère, savaient qu'il y avait des gros risques. Mais bon, malheureusement, on a cru tout ça jusqu'au 28 juin 1944. Le 28 juin, Philippe Henriot, le ministre de l'Information du gouvernement de Vichy, qui chaque soir à la radio prononçait une chronique haineuse, toujours à l'encontre des mêmes, les résistants qu'il appelait les terroristes, les juifs, les communistes, etc. Ce 28 juin 1944, il est abattu, il est tué par des résistants à Paris. Aussitôt, grand bras de combat à Lyon, entre autres dans le milieu milicien, commandé par Paul Touvier, qui décide à titre de représailles de cet assassinat, de faire fusiller des juifs. Il décide d'en faire fusiller 8. Il en fait mettre dans le couloir des locaux qu'il occupe, un poste Catelin à Lyon, à l'angle de la rue Sainte-Hélène. Il a des détenus dans ses locaux, juifs et non-juifs. Donc il fait aligner 8 hommes dans un couloir. À ce moment-là, un milicien vient lui parler dans l'oreille. Quand il a fini, l'un des 8 hommes, il le fait remettre en cellule. Et pourquoi ? Parce que le milicien lui a dit, celui-là, c'est pas un juif, c'est un résistant. Effectivement, il s'appelait M. Goudard, il avait été arrêté pour fait de résistance. Donc c'est bien des juifs que Touvier voulait faire fusiller. Alors on ne saura jamais du reste pourquoi il a fixé ce nombre de 8 au départ. Mais enfin, finalement, il lui reste 7. Et le lendemain matin, le jeudi 29 juin 1944, avec ses hommes armés, il part devant le mur du cimetière de Rieux-la-Pape, où ces 7 hommes sont fusillés. Nous, à vol d'oiseau, on est à 1 kilomètre à peu près de cet endroit. Depuis quelques jours, je suis en vacances scolaires. Ma mère est en congé maladie. Mon grand-père, lui, ne quittait pratiquement jamais la maison. Et ma grand-mère nous avait dit la veille, demain jeudi, j'ai rendez-vous chez le dentiste à Lyon l'après-midi, je partirai le matin et j'en profiterai pour faire des courses. Donc ce jeudi 29 juin, 44, ma grand-mère s'en va. À midi moins le quart, 2 hommes se présentent dans la maison et nous demandent. Le propriétaire leur dit qu'ils sont au premier étage, ils montent tous les deux. L'un d'eux, en arrivant, va poser son revolver sur la table. Je ne savais pas qui c'était. Je le reconnaîtrai beaucoup plus tard, au début des années 70, par des photos qui vont paraître dans la presse, que c'était Paul Touvier. Donc ils nous disent, vous préparez une valise, on vous emmène. À ce moment-là, ma mère me dit, change-toi. J'avais 2 pantalons au choix, on est 29 juin. Un pantalon court, un pantalon long. Au mois de juin, j'hésite pas, je prends le pantalon court. Et elle me dit, non, mets ton pantalon long. Bon, c'était pas le moment de demander des explications ou de discuter. J'ai mis mon pantalon long sans chercher à comprendre. Et ils nous ont emmenés et ils nous ont déposés au siège de la Gestapo, place Bellecour. Là, on est descendu dans la cave. À l'entrée, il y avait un Allemand qui prenait nos noms sur un registre. À l'intérieur de la cave, il y avait des chaises alignées, comme vous êtes là. La porte était derrière nous. Une fois qu'on était assis, il y avait déjà des gens dans cette cave. Donc, on s'assoit chacun sur une chaise, mon grand-père, ma mère et moi, et on attend. Au bout d'un moment, Un homme vient chercher mon grand-père et ma mère pour interrogatoire. Ils partent donc tous les deux dans les étages, et encore au bout peut-être de 2 heures, 2 heures et demie, ma mère revient seule, en pleurs, et me glisse dans l'oreille, ils ont tué ton grand-père. Effectivement, au bout d'un moment, j'entends son nom derrière nous, il est interdit de bouger. Mais enfin, je me retourne quand même de ma chaise comme ça, et je vois son corps sur les épaules d'un homme qui vient le faire pointer, sorti sur le registre des entrées. Après, j'ignore totalement ce qu'ils ont fait de son corps, je ne l'ai jamais su. Le soir, avec tous ceux qui étaient dans cette cave, ils nous ont emmenés à la prison Montluc, où on a passé une nuit dans une cellule, et le lendemain matin, ils sont venus me chercher pour me mettre dans une baraque qui était construite dans la prison de Montluc, qu'on va appeler la baraque aux Juifs, parce qu'ils y mettaient principalement les hommes juifs. Les femmes, quelle que soit leur catégorie, résistantes juives ou reflées, restaient en cellule, ainsi que les hommes résistants. Mais alors, on avait un avantage dans cette baraque, finalement, c'est qu'elle était relativement grande. On pouvait aller venir, tandis que dans les cellules de 4 mètres carrés, ils ont été jusqu'à 7 ou 8. Hein. Mais nous, on pouvait aller venir. On discutait toute la journée, on n'avait rien d'autre à faire. On n'est jamais sorti dans la cour, ils nous apportaient à manger une fois par jour. Mais on savait par les anciens que parfois, il se produisait un événement. Cet événement s'est produit 3 fois pendant que j'y étais et il se produisait dans toute la prison, dans la baraque et du côté des cellules aussi. Le matin de bonne heure, en ce qui concerne la baraque, ouverture de la porte, lumière, un Allemand sur le pas de la porte avec une liste de noms par ordre alphabétique des gens qui étaient dans cette baraque. Il égrenait ces noms et on savait que ça se terminait par une des 2 formules, avec bagage ou sans bagage. Les 2 premières listes que j'ai entendues, la formule a été sans bagage. Alors on savait, toujours par les anciens, et ceux qui avaient été appelés, évidemment le savaient aussi, que sans bagage, ça voulait dire qu'ils allaient quitter la prison et être fusillés dans la journée. Vous avez beaucoup de communes dans les environs de Lyon qui ont une plaque commémorative qui rappelle qu'à cet endroit, à telle date, tant de détenus de Montluc ont été fusillés. 20 juillet, troisième appel. Mon nom est prononcé dans les premiers, puisque commence par un B, il m'avait rendu mon vrai nom. J'ai dû attendre la fin de la liste pour savoir comment elle allait se terminer. Elle s'est terminée par la formule avec bagage, ce qui était un certain soulagement, parce qu'avec bagage, on savait qu'on allait quitter la prison, mais non pas pour être fusillé, mais pour être transféré ailleurs. Alors comme on n'avait aucune idée de ce qu'était cet ailleurs, eh bien, on était très content d'être appelé avec bagage. Et ils nous ont fait sortir dans la cour, ceux qui avaient été appelés. J'ai retrouvé ma mère qui avait été appelée dans sa cellule. Ils nous ont emmenés à Perrache. Il y avait un train composé de wagons de voyageurs, du reste. Les hommes dans une partie du train, les femmes dans l'autre. On a voyagé le 20, le 21 et le 22 juillet. On est arrivé dans une petite gare qui est Bobigny, en banlieue parisienne, où des bus nous attendaient, qui nous ont emmenés à 3 km de là, au camp de Drancy, que j'évoquais tout à l'heure au sujet des enfants d'Izieux. Ce camp de Drancy, ce sont des HLM habités qui sont construits en fer à cheval sur 3 côtés. Mais à l'époque, ils n'étaient pas terminés. L'extérieur était fait, les toits, les gros murs, les quelques fenêtres, mais pas l'intérieur. Il n'y avait pas de cloison à l'intérieur. Les travaux avaient sans doute arrêté au moment de la déclaration de guerre. Donc on a été mis dans cette grande pièce. Ça faisait une grande pièce. Donc j'ai été avec ma mère pendant tout le temps qu'on a été à Drancy. Mais pendant qu'on y était, il est arrivé de nouveau des bus, avec cette fois à l'intérieur que des enfants. Et quand je vous dis que des enfants, les plus jeunes avaient 2 ans. D'où ils venaient ces enfants? Ils venaient de maisons qui avaient été ouvertes pour eux, à Paris et dans la banlieue, et à l'hôpital Rothschild aussi, certains. À l'époque, ou au tout début de l'occupation allemande des premières offres de juifs à Paris et dans la région, c'est-à-dire en 1941 et tout début 1942, les nazis n'emmenaient ensuite, après Drancy, n'emmenait pour une destination inconnue que les adultes, c'est-à-dire à partir de là de 15 ans, qui était le mien à l'époque, j'avais 15 ans et 8 mois à l'époque, donc il n'emmenait que les adultes, laissant sur place les enfants au gouvernement de Vichy de s'en débrouiller, qu'ils avaient dormi dans ces maisons. Mais au mois de juillet 44, eh ben, vers la fin, après le 22 juillet, puisque je suis arrivé le 22 juillet à Drancy, ils nous ont ramené 300 enfants qui étaient dans ces maisons. Les plus jeunes avaient 2 ans, donc. Et le 31 juillet, rassemblement dans la cour de 1000 adultes, dont j'ai fait partie avec ma mère, et des 300 enfants qu'ils avaient amenés dans la période, et retour à la gare de Bobigny, où cette fois nous attendait un train composé de ces wagons en bois qu'on appelait des wagons à bestiaux, sur le flanc desquels étaient marqués « hommes 40 » ou « chevaux en long 8 ». En réalité, ils nous ont fait monter entre 80 et 100 par wagon, sans nourriture, sans eau, on est le 31 juillet, on était debout, serré comme tout. On a voyagé comme ça le 31 juillet, le 1er, le 2 août et le 3 août, vers 3 heures du matin environ, que j'estime, le train s'arrête. On entend à l'extérieur des hurlements, des aboiements de chiens. On se demandait bien où on arrivait. Ils avaient laissé un rectangle ouvert qui aérait un peu le wagon. On voyait par ce rectangle ouvert qu'il faisait nuit, lumière électrique. On ne savait pas où on arrivait. En réalité, on arrivait à Birkenau, qu'on appelle aussi Auschwitz II, mais nous, on ne savait pas. Les portes s'ouvrent et on voit apparaître des hommes qui nous disent « Vous sautez du wagon, les hommes à gauche, les femmes et les enfants à droite. » Donc, moi, je me suis posé la question, parce qu'on était considéré enfant par eux jusqu'à 14 ans. Bon, j'avais 15 ans et 8 mois. Mais enfin, je me suis dit « Ils ne me connaissent pas. » J'arrive. J'étais pas grand, j'ai pas grandi depuis, j'ai arrêté ma croissance à ce moment-là. Je pesais 45 kilos, j'étais pas épais. Je suis allé avec ma mère, on était dans le même wagon. Je suis allé vers ma mère, qui brutalement m'a repoussé du côté des hommes. Mais dans cette pagaille épouvantable, on s'est rien dit. C'est la dernière fois que j'ai vu ma mère. Je vous rappelle qu'elle m'avait dit de mettre des pantalons longs quand on a été arrêté. Là, elle me repousse du côté des hommes. Et pourquoi il y avait la pagaille? Parce qu'ils nous avaient dit, par exemple, les hommes à gauche. Ben nous, on est partis à notre gauche. Seulement, ils sont en face de nous. Alors, vous êtes en face de moi, votre gauche, elle est où? Ah oui, tandis que la mienne, elle est là. Non, vous, c'est de l'autre côté, la gauche. Tandis que la mienne, elle est là. Donc, on n'avait rien compris. C'était des hurlements, on se bousculait. On s'est perdu lui instantanément. Avec ma mère, je ne l'ai jamais revue. C'est la dernière vision que j'ai de ma mère, me repoussant du côté des hommes. Donc je descends de ce wagon, je me retrouve dans une file d'hommes, c'était pareil du côté des femmes et enfants, mais on ne les voyait plus. On s'approchait d'un SS qui nous regardait et qui nous faisait signe comme ça. 3 coups à gauche, 1 coup à droite, bon. Je me suis retrouvé dans une file, la moins nombreuse des deux, puisqu'on s'est retrouvé en 2 files. Alors on a su après que d'un côté, il avait désigné le côté des hommes qui jugeaient aptes au travail, et de l'autre côté, ceux qui jugeaient soi-disant inaptes au travail. Dis soi-disant parce que j'en ai toujours douté de ça. Parce que moi, il m'a considéré apte au travail, si on s'en tient à ça. Bon, je suis pas grand, j'étais plutôt maigrelet, 45 kilos, c'était pas énorme. Des hommes dans la force de l'âge avait été jugé inapte au travail. Or moi, je crois plutôt qu'il savait, on lui avait dit qu'à l'arrivée du convoi, il fallait faire comme ça, il fallait d'un côté mettre un certain nombre d'individus et mettre les autres d'un autre côté. Par exemple, 1 sur 3, 1 sur 4, alors il devait compter dans sa tête. Voilà, parce qu'on reviendra sur ceux qui ont été jugés, soi-disant, inaptes au travail. En sachant que toute femme qui arrivait avec un enfant ou des enfants à côté d'elle était automatiquement jugée inapte au travail avec ses enfants. Donc voilà, en ce qui nous concerne, nous, les aptes au travail, on n'était pas destinés à rester à Birkenau. On était destinés au camp principal d'Auschwitz à 3 km. Parce que Birkenau, qui va ouvrir au début, tout à fait fin 41, début 42, et va être un camp mixte. Hein, quand on va à Birkenau maintenant, il y a la voie ferrée au milieu. À droite, c'était le camp des hommes, à gauche, le camp des femmes. Tandis que le camp d'Auschwitz, auquel j'ai été destiné, était un camp exclusivement d'hommes à ce moment-là. Donc on est arrivé dans ce camp principal d'Auschwitz, qui avait ouvert en 1940, et qui est non pas composé de baraques en bois, comme tous les camps, mais de bâtiments en briques d'un étage. Donc il a pu être vite ouvert, parce que c'est une caserne, une ancienne caserne de l'armée polonaise. Donc on est entré dans un de ces bâtiments au rez-de-chaussée. Ils nous ont fait entièrement déshabiller, tondus de la tête aux pieds, tatoués un numéro sur l'avant-bras gauche. Le mien, c'est le B3692. À partir de ce moment-là, on sortait du monde des humains pour entrer pratiquement dans celui des animaux, parce qu'on devenait des numéros. On perdait toute identité humaine. On ne s'appelait plus de bloc ou d'autre chose. Moi, j'étais le numéro B3692, qu'il a fallu apprendre très vite en allemand. Mais enfin, c'était rare qu'ils nous appellent par nos numéros. Toujours est-il, bon, après ils nous ont donné une veste, un pantalon, sans essayage évidemment. On s'est débrouillé entre nous après. Deux souliers dits disparates, évidemment, qui n'étaient pas de la même paire ni de notre pointure. Enfin, on s'est débrouillé entre nous. Ils nous ont mis dans un bâtiment, pour nous ça a été le numéro 2. Je me suis retrouvé au premier étage. Dans ce bâtiment, il n'y avait que des chalets. Les chalets sont des lits superposés en bois. À chaque niveau, il y avait une paillasse individuelle. Ils nous ont mis deux par paillasse. C'était pas très large. À nous de nous débrouiller pour se coucher comme on pouvait. Donc on passait la nuit comme ça. Sur le coup, quand on est arrivé à 14h30 le matin environ, on était incité à se lever rapidement. Je dis pas à s'habiller, parce que pratiquement on ne déshabillait jamais. On était incité à se lever rapidement par le hurlement des capots. Les capots, c'était des détenus, plus ou moins assassins, qui avaient été jugés, qui avaient été condamnés à de lourdes peines de prison, qu'ils étaient allés chercher dans leur prison pour faire respecter la discipline parmi nous, avec tous les droits de nous taper dessus comme ils voulaient. Avec leurs poings, leurs pieds, des bâtons qu'ils avaient. Enfin, ils étaient chargés de faire respecter la discipline parmi nous. Donc, on se levera rapidement. Après avoir toutefois regardé à notre niveau si tout le monde se levait. Parce qu'il pouvait arriver certains matins qu'il y en ait qui ne se réveillent pas parce qu'ils étaient morts pendant la nuit. Soit d'épuisement, soit de leur maladie. Parce que quand vous aviez des gens qui avaient été arrêtés depuis pas mal de temps. Nous, on a été le 29 juin, on arrive là au mois d'août, ça faisait plus d'un mois. Bon, ceux qui étaient malades, qui avaient un traitement pharmaceutique, ben, ils n'avaient plus de remède, évidemment, depuis le jour de l'arrestation, ils finissaient par mourir de leur maladie, du fait de manque de médicaments. Donc, on se levait en descendant les morts, éventuels, s'il y en avait, parce qu'arrivé en bas, à l'extérieur, on devait se mettre au garde-à-vous, sur une certaine largeur, une certaine profondeur, mais couché s'il y en avait le ou les morts devant nous, et un SS venait nous compter. Alors il nous comptait, on appelait ça l'appel du matin, il nous comptait, il multipliait par le nombre en profondeur, les capots lui avaient donné tous les renseignements nécessaires, je suppose. Fin de matin, il n'y avait jamais de problème. On rompait les rangs à la suite de ça, ils nous distribuaient ce qu'ils appelaient le café, une cuvette pour six, et on partait travailler. J'avais été affecté à un commando de terrassement. Alors on partait en rang comme un régiment, encadré par les SS et des capots. Un orchestre composé de déportés nous jouait des airs entraînants à la sortie du camp. On rejoignait notre chantier, on retrouvait nos pioches, nos pelles, et toute la journée, ben, on piochait, on transportait de la terre, des cailloux à droite, à gauche. On n'a jamais su à quoi ça rimait. Mais enfin, on faisait ça toute la journée. Ça rimait surtout à nous affaiblir le plus vite possible. Parce qu'à midi, il y avait la distribution de ce qu'ils appelaient la soupe qui arrivait du camp. Les capots se chargeaient de la distribution d'une cuvette pour quatre de bouillon. Ce bouillon, donc, on le buvait à quatre. On n'avait eu que notre café le matin. Hein. Et ce bouillon qui certainement était fait avec de l'eau non potable, parce qu'on avait tous la diarrhée, ce qui nous affaiblissait encore plus vite, et c'était toujours le but du camp. Donc voilà, alors toute la journée, l'après-midi, on reprenait notre travail, et le soir, on rentrait toujours en rang, en ramenant, s'il y en avait eu dans la journée, le ou les morts, c'était pas tous les jours, heureusement, mais enfin, ça arrivait, il fallait qu'on les porte, qu'on les ramène au camp, pour qu'ils soient présents à l'appel du soir. L'appel du soir qui pouvait durer beaucoup plus longtemps que le matin. La journée était finie, après, il n'y avait plus rien à faire. Donc, rien ne pressait. Alors, on se mettait au garde-à-vous, après notre journée de travail, et on attendait le SS qui veut bien arriver pour nous compter. Alors là, ça pouvait durer qu'il arrive. Ça pouvait être dans la demi-heure qui suivait, mais ça pouvait être 2 heures après, ou plus. Il arrivait, il nous comptait. Bon, quand il avait fini, ben c'était fini, mais il y avait 2 possibilités. Il pouvait aussi prétendre qu'il manquait quelqu'un. Et à ce moment-là, il partait pour chercher son erreur. Or, je sais que dans notre groupe, il n'y a jamais eu d'évasion. Mais enfin, il prétendait, et il revenait, mais alors il revenait au bout de... Le soir, ça pouvait durer 2 heures, 3 heures, l'appel au garde-à-vous, après notre journée de travail. Surveillé par les capots, si on bougeait, ils nous fonçaient dessus. Donc, moi, qui n'étais pas grand, je me mettais un peu au milieu. Le premier rang, c'était dangereux, parce qu'on était trop visible. Donc, et puis finalement, le SS revenait. Évidemment, il n'avait pas eu d'erreur. Donc, on rompait les rangs, et à ce moment-là, ils nous distribuaient la seule nourriture solide pour 24 heures, un cube de pain noir d'environ 200 grammes, avec dessus une rondelle, plus ou moins large, plus ou moins épaisse, tantôt blanche, tantôt noire, qu'on prenait pour de la margarine ou du boudin. On mangeait ça sans chercher à comprendre, puisqu'on n'avait que ça pour 24 heures. On montait se coucher, et le lendemain, ça recommençait pareil, à l'exception du dimanche. Alors le dimanche, réveil à la même heure, appel du matin, qui durait plus longtemps le dimanche que les autres jours, parce que l'exception, c'était qu'on n'allait pas travailler le dimanche. Mais on devait se promener à la suite de cet appel, qui pouvait durer donc plus longtemps le dimanche, on devait se promener dans le camp toute la journée, interdiction formelle d'entrer dans un bâtiment, on devait rester dehors toute la journée, quelle que soit la météo. Donc on se promenait loin large, on discutait entre Français, parce qu'il y avait toutes les nationalités dans ce camp, depuis les Grecs jusqu'aux Hollandais, tout le monde était représenté, chacun parlait sa langue, on se comprenait pas entre nous, évidemment. Donc voilà. Et puis de temps à autre, ils avaient prétendu dans la semaine qu'il y en avait certains qui avaient cherché à s'évader, ça a été rare, mais enfin c'est arrivé. Alors ils les mettaient de côté, et le dimanche, ils procédaient à leur pendaison, et on devait y assister. Voilà, alors notre vie s'écoulait comme ça. Et puis, de temps à autre, à la fin des appels, le SS désignait certains de loin, comme ça, ils faisaient signe de sortir des rangs. Alors les capots les faisaient sortir, ces hommes étaient ramenés à Birkenau. Et c'est là qu'on va y retourner. Pour parler de comment sont devenus les gens qui avaient été jugés, entre guillemets, inaptes au travail, à notre descente du train, y compris les hommes donc, qui étaient sélectionnés pendant les appels. Alors donc, on est arrivé à Birkenau ce 3 août 1944, les inaptes au travail. Alors Birkenau a ouvert tout à fait fin 41, début 42. Alors, en dehors des baraques qui avaient été construites pour les détenus, ils avaient construit 4 bâtiments en béton. 2 en sous-sol, avec une partie émergente au-dessus, et 2 hors-sol. Les numéros 2 et 3 qui étaient en sous-sol, les 2 plus grands, et les numéros 4 et 5. Le numéro 1, il avait laissé affecter un petit bâtiment de même usage au camp principal d'Auschwitz, où j'étais, qui a été désaffecté quand Birkenau a ouvert. Donc les gens qui étaient descendus du train inaptes au travail étaient dirigés vers l'un des deux plus grands, alors disons le numéro 2 en sous-sol, ils descendaient. Ils arrivaient dans une grande pièce où il y avait des crochets au mur numérotés. Et on leur faisait un petit discours en leur disant dans le genre « Vous venez de faire un long voyage, vous devez être fatigué, Vous allez prendre une douche, ça va vous faire du bien. Alors vous vous déshabillez, hommes, femmes, enfants, hein, tout le monde est là. Vous vous déshabillez, vous mettez vos vêtements à un de ces crochets, mais alors surtout, vous repérez bien le numéro. Parce que vous voyez, vous êtes nombreux, si vous ne repérez pas, vous ne vous rappelez plus de votre numéro, jamais vous retrouverez vos vêtements. De notre convoi, ils étaient 726, dont les 300 enfants dont j'ai parlé tout à l'heure, et 426 adultes. Peut-être certains accompagnés de leurs enfants. Bon, ils étaient 426 plus 300, 726. Et ils entraient dans la salle de douche. Tout était installé, les pommes de douche au plafond, tuyauterie, tout était installé. Ils entraient. Quand tout le monde était entré, la porte était refermée. Au rez-de-chaussée, puisque cette salle de douche est en sous-sol, au rez-de-chaussée, il y avait des SS qui avaient des boîtes de conserve dans lesquelles il y avait des granulés. Ils jetaient ces granulés dans une sorte de cheminée. Ces granulés, au contact de l'air, se transformaient en gaz. Ce gaz arrivait par les pommes de douche et les gens, petit à petit, étouffaient. Il était considéré qu'au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, tout le monde était mort. En réalité, ce qu'ils appelaient la salle de douche, c'était la chambre à gaz. Quand tout était fini, donc au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, la porte était rouverte. Ils faisaient fonctionner des ventilateurs pour évacuer les gaz et entrait en action un commando composé d'hommes déportés qu'ils avaient sélectionnés dans le camp de Birkenau, qu'on va appeler les Sonderkommando. Ils étaient une soixantaine par à chaque bâtiment, donc ils étaient chargés de sortir les corps de cette chambre à gaz, de tondre les femmes, parce qu'ils se servaient des cheveux pour faire du tissu, de vérifier qu'il n'y avait pas de dents en or qui traînent dans une bouche, auquel cas ils devaient les arracher, les mettre de côté. Ces corps étaient mis sur des chariots qui, par un mont de charge, étaient remontés au rez-de-chaussée où il y avait les fours crématoires. Mais paraît-il, les SS ne voulaient pas qu'on sache à l'extérieur quel était le rôle de ce Sonderkommando, alors que tout le monde le savait. Alors ils avaient trouvé un moyen qu'ils pensaient efficace, c'est tous les 3 mois de les remplacer par un nouveau commando. L'ancien commando étant gazé à son tour et mis dans les crématoires par les nouveaux. Si bien que ceux qui ont été nommés, disons en septembre 1944, je ne sais pas exactement la date, mais qui ont été nommés en septembre 1944, se sont concertés. Ils ont été affectés au fonds crématoire, chambre à gaz numéro 4. Ils sont concertés et ils se sont dit, maintenant qu'on est là, on est condamné à mort. Parce qu'ils savaient comment ça se passait. Donc il faut qu'on fasse quelque chose avant de mourir. Alors ils ont, par un moyen quelconque, mis hors d'état de fonctionner leur chambre à gaz. Ils ont naturellement été exécutés, mais enfin ils avaient fait ce geste de résistance, on peut dire. C'était le 7 octobre 1944. Et les nouvelles circulant, on ne sait comment, entre camps, venant d'un camp à l'autre ou même de l'extérieur, on avait des nouvelles de l'extérieur, tantôt vraies, tantôt fausses. Elles étaient loin d'être toutes vraies. Mais enfin, on a su rapidement qu'une chambre à gaz était mise hors d'état de fonctionner. Comme on a su un peu plus tard qu'un ordre est arrivé de Berlin, et ça on a pu le constater tout de suite, d'arrêter toutes les chambres à gaz dans tous les camps d'extermination, tous situés en Pologne, et de les dynamiter au fur et à mesure que l'armée rouge, l'armée soviétique, approcherait pour libérer le camp. C'est ce qui a été fait. Les chambres à gaz ont été arrêtées. Ce qui n'a pas empêché, du reste, par la suite, pendant les appels, 2 ou 3 sélections encore, sans qu'on sache que venaient ceux qui étaient sélectionnés. Donc ça se poursuivait. Cet ordre de Berlin, j'ai su après-guerre en rentrant qu'il était effectivement arrivé en novembre 1944 d'arrêter les chambres à gaz. Donc comme ça, notre survie se poursuivait. On allait travailler dans la journée, on rentrait le soir, etc. Mais un jour, on ne travaillait pas le dimanche, mais une fois, on n'est pas allé travailler le lendemain. Alors là, comme chaque fois qu'il y avait quelque chose qui sortait de l'ordinaire, on se pose toujours les mêmes questions. Qu'est-ce qu'ils ont encore inventé? Qu'est-ce qu'ils ont manigancé? Qu'est-ce qui va nous arriver? Ma foi, la deuxième journée s'est passée normalement. Et le lendemain, on est reparti travailler. Et quelques jours après, les nouvelles arrivant dans les camps, on ne sait d'où, on a appris que ce deuxième jour qu'on n'avait pas travaillé était le 25 décembre 1944. Le 25 décembre, c'est le jour de Noël. La fête par excellence des enfants, qui étaient pratiquement tous gazés à l'arrivée à Birkenau. Dit pratiquement tous, parce qu'il pouvait se faire, lors de l'arrivée de certains convois, que le SS qui procédait à la sélection côté femmes et enfants remarque des enfants qui, à ses yeux, lui paraissaient pas normaux physiquement. Alors, sur quoi il jugeait, j'en sais rien. Par contre, les jumeaux, il les loupait pas. Il les mettait de côté parce qu'ils allaient faire sur eux, il le faisait aussi sur les adultes, mais là on parle des enfants, ils allaient faire sur eux ce qu'ils appelaient, entre guillemets, leurs expériences médicales. Alors il les mettait dans un bâtiment, il leur inoculait des produits, il leur faisait avaler on ne sait pas trop quoi. Quand ils avaient fini leur constatation, au bout de 15 jours ou de 3 mois, eh ben, il leur faisait piquer le phénol dans le cœur, il les tuait comme ça. Mais enfin, voilà, ils avaient respecté le jour de Noël, ce qui m'a fait un point de repère. Parce qu'à la longue d'être là, on n'avait ni montre, ni calendrier, ni quoi que ce soit. On ne savait plus du tout à quelle date, ni même quel mois on était. On voyait bien qu'il neigeait, qu'il gelait à ce moment-là, mais enfin, on n'en savait pas plus. Donc ce coup de savoir que c'était le jour de Noël, ça nous a fait un point de repère, surtout à moi, parce que quelques jours après, à la fin d'un appel, j'ai été sélectionné, sans savoir ce que j'allais devenir. Finalement, ils nous ont emmenés à Birkenau aussi, mais là, un train de nouveau nous attendait, mais cette fois, ce n'était même plus des wagons fermés, c'était des wagons plats, entourés de planches qu'on appelle des ridelles, qui normalement servaient au transport du charbon extrait des mines de la région. Donc on est monté sur ces wagons, température moyenne moins 25, avec une veste, un pantalon et des souliers sans chaussettes. On a voyagé comme ça la journée pour traverser toute la Pologne du sud au nord, Auschwitz étant dans le sud de la Pologne, et le camp dans lequel on est arrivé étant au bord de la Baltique, au nord de la Pologne, ce camp qui s'appelle le Stutthof en Pologne. Ne pas confondre avec Stutthof en Alsace. C'est Stutthof en Pologne, à une trentaine de kilomètres de Danzig à l'époque, Gdansk en polonais. Donc on est arrivé dans ce camp, un camp entre guillemets normal, c'est-à-dire composé de baraques en bois, chambres à gaz arrêtées, il y en avait une. On a été mis dans un de ces bâtiments en bois, une de ces baraques. On nous a affecté de nouveau à un commando de travail. Cette fois, j'ai été affecté à un camp, à un commando qui d'une usine. Alors, chaque matin, on partait en subissant la bise glaciale qui arrivait du large, puisqu'on était au bord de la Baltique. Mais au moins, dans l'usine, on était à l'abri de cette bise. Et puis, un jour, les SS sont partis. Ils ont été envoyés sur le front de l'Est, au-devant de l'armée soviétique. Et ils ont été remplacés par des soldats de la Wehrmacht, l'armée régulière, des soldats qui revenaient de l'Union soviétique, qu'ils étaient allés remplacer, et qui étaient très heureux d'être amenés vers l'arrière, comme on disait, pour garder un camp. Parce que ce sont des hommes allemands qui avaient été mobilisés, qui n'étaient pas dans la SS hein, du tout, c'était des civils, bon, qui étaient sûrement pour une bonne partie des affectés qui avaient adhéré au parti nazi, mais enfin, qui étaient beaucoup moins rudes que les SS. Ils étaient bien contents d'être là pour garder un camp, et il faut reconnaître que la situation a beaucoup changé pour nous. Si bien qu'un jour, j'ai fait une chose que je n'aurais pas fait quand les SS étaient là, je suis allé à l'infirmerie. J'avais le gros orteil du pied gauche qui commençait à me faire mal, j'en ai conclu qu'il devait commencer à geler, alors je suis allé à l'infirmerie où je savais que j'allais trouver un médecin lyonnais, le docteur Fischer, qui avait été arrêté à la même période que moi. À l'époque, il avait son cabinet non loin d'ici, au 7 rue de l'Université. Donc, on s'est rencontrés donc à Montluc, Drancy, Auschwitz. On était tous ensemble, là, il travaillait avec nous. Il n'y a qu'ici qu'il avait été enfin affecté au service médical. Alors, j'y suis allé, il a regardé mon pied. Bon, il m'a dit, c'est une grosse engelure. De toute façon, j'ai rien pour le soigner, c'était déjà quelque chose. Mais il avait des rouleaux de papier Kraft, Jean papier Kraft. Il m'a dit, je vais t'entourer le pied avec ça, en faisant plusieurs tours. Mais maintenant, ils ne disent plus rien. Alors demain matin, au moment de partir au travail, tu leur fais comprendre en montrant ton pied que tu peux, que t'as des difficultés à marcher, que tu ne peux pas rester debout toute la journée. Ils ne te diront rien. J'aurais pas fait ça avec les SS. Effectivement, je suis resté dans le camp quelques temps, pas mal de temps. Mais un jour, les SS sont revenus. Alors là, je suis retourné travailler. Je ne voulais pas rester au camp quand les SS étaient là. On ne savait jamais ce qui pouvait leur passer par la tête. Ils avaient le revolver facile, les coups faciles. Alors bon, je suis retourné travailler. Et début mai 45, évacuation finale de ce camp. Il y avait déjà eu des évacuations. Et ces déportés qui tenaient à peine debout, on tenait à peine debout, on avait de la peine à marcher, qui partaient sur les routes, que ceux qui ne pouvaient pas suivre, les SS qui les escortaient, les abattaient d'une balle de revolver, les autres, d'autres, qui tombaient morts, parce qu'ils étaient au bout du rouleau, ils tombaient et ils étaient morts, ils laissaient tout ça sur la route, c'est pour ça qu'on a appelé ça les marches de la mort. Mais nous, je pense qu'ils ne savaient plus par où passer pour nous évacuer, parce que quand ils évacuaient un camp, c'était pour emmener dans un autre camp. Mais là, allez, début mai 45, les Anglo-Américains avaient libéré pratiquement toute l'Allemagne. Les Soviétiques étaient là, presque dans notre camp, pas loin. Donc il y avait un petit port à proximité de ce camp où ils avaient aligné des péniches, comme genre des péniches qu'on peut voir sur la Saône. On est descendu à fond de cale d'une de ces péniches. Il y avait 4-5 SS qui regardaient qu'on descende bien pour chaque péniche. On s'asseyait, on était dans le noir le plus complet, dans cette cale. Quand ça a été fini, les SS sont descendus à leur tour, les péniches ont commencé à quitter le port, mais les SS qui ont voulu s'asseoir ont trouvé qu'ils ne s'étaient pas gardés assez de place. On était trop nombreux. Alors, comme ils avaient la solution pour tout, ils ont fait remonter les derniers d'entre nous qui étaient descendus, ils les ont poussés dans la Baltique, ils se sont fait de la place comme ça. Alors on a voyagé comme ça, un jour ou deux, je ne sais pas, dans le noir. On ne se rendait même pas compte. Et puis on est arrivé à un endroit, péniche s'arrête, ils nous font remonter, et on se retrouvait sur des vieux cargos, il y en avait deux, je crois, qui étaient ancrés là, en rade d'un port, c'est-à-dire à l'intérieur du port, mais pas vers les quais. On était au milieu de l'eau, là. J'ai su après que c'était un rade de Flensbourg, une ville d'Allemagne du Nord. Mais bon, on était comme une île sur ce cargo. Alors bon, les SS, quand tout le monde a été sur ces cargos, les SS sont promenés de long en large. Le lendemain, ils avaient disparu. Alors, qu'est-ce qu'on va faire là-dessus? Ils nous ont abandonnés. Bon, bah, ils vont nous laisser mourir de faim, quoi. Il n'y avait pas d'autre chose à envisager. Puis la nuit suivante, une nuit noire, on ne voyait rien. Il n'y avait pas de lune, le ciel devait être couvert. Il y avait du va-et-vient, bon, des gens qui marchaient. Et puis quand le jour s'est levé, on avait que c'était des hommes en civil, habillés en civil. Alors on s'est redressé parce qu'on n'en pouvait plus. On était comme ça, si on pouvait s'appuyer contre quelque chose, on s'appuyait, sinon on était couché. Avec beaucoup de difficultés, on s'est un peu redressé. Et en regardant comme ça autour de nous, on voit à un bout du cargo des bateaux, genre grosses barques, qui battaient pavillon de la Croix-Rouge. Il s'avère que ce jour-là, on est le 10 mai 45, c'est-à-dire deux jours après la capitulation sans condition de l'Allemagne, c'est pour ça que les SS avaient disparu, et que c'est la Croix-Rouge suédoise qui vient nous chercher. Donc ils nous ont emmenés en Suède, on a débarqué à Malmö, dans le sud de la Suède, ils nous ont fait entièrement déshabiller, on était couverts de vermine, de poux, de tout ce qu'on peut imaginer. Ils ont brûlé tout ce qu'on avait sur le dos, y compris les souliers. Nous, ils nous ont fait passer dans des étuves à haute température pour tuer toutes ces bestioles. Et ensuite, ils nous ont donné des vêtements propres, des vêtements civils propres, et nouvelle sélection. Cette fois, pour les plus faibles d'entre nous, les emmener en ambulance, et ceux qui paraissaient moins faibles, monter dans un train qui était là sur le port. Moi, je suis désigné dans cette dernière catégorie. Alors, je m'approche du train. Seulement, il y avait un problème. C'est qu'on est sur un port. Et dans un port, les trains qui sont sur le port, eh ben, les roues sont à la hauteur de nos pieds. Et à l'époque, c'était des wagons dont la caisse était déjà assez haute, ces vieux wagons de troisième classe de l'époque qui existaient dans toute l'Europe. Alors je me suis approché de ce wagon, il y avait trois marches à monter, parce que dans une gare, les marches sont à votre hauteur, vous êtes sur le quai, tout le reste est dans la fosse. Mais là, j'ai élevé la jambe aussi haut que j'ai pu. J'ai posé le pied sur la première marche, mais je ne pouvais pas aller plus loin. Un infirmier qui était dans le wagon m'a vu, m'a appuyé sous les aisselles, m'a mis dans un compartiment. On est parti, on est arrivé dans un grand bâtiment blanc, qui était une école qu'ils avaient transformée en hôpital de campagne. On y a retrouvé des lits individuels avec des draps blancs, ce qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. Ils nous ont pesés. Je pesais 30 kilos. En 10 mois, j'avais perdu un tiers de mon poids. J'avais perdu 15 kilos sur 45. Et on m'a expliqué que si j'étais pas monté dans le train, c'est que j'avais perdu tous mes muscles. Donc, on a été soigné 2 mois. Pendant une dizaine de jours, j'ai reçu des piqûres, 3, 4, 5 piqûres à la pliure du bras, là, tantôt à droite, tantôt à gauche. Et le médecin suédois, au bout de ces 10 jours, qui parlait très bien français, m'a dit « on t'a fait des piqûres de camphre pour te soutenir le cœur ». J'avais 16 ans et demi, hein. On avait besoin de me soutenir le cœur. Et il ajoute « aujourd'hui, je peux te dire que tu es sauvé, quand tu es arrivé, je ne te donnais pas 24 heures ». Donc c'était déjà une bonne nouvelle, j'étais encore vivant. Donc au bout de 2 mois, le 14 juillet, ils nous ont emmenés à Göteborg, dans l'ouest de la Suède, où on a retrouvé d'autres escapés d'autres camps qu'ils avaient soignés aussi. Un paquebot était là pour nous emmener et qui, en faisant le tour des îles britanniques, nous a amenés à Cherbourg, où on a débarqué le 20 juillet 1945. Le 21 à Paris, ils ont fait des papiers, donné un peu d'argent, un billet de train pour entrer chez nous. Le 22 juillet, j'ai retrouvé ma grand-mère qui avait récupéré son appartement. Évidemment, sa première question, ça a été « Est-ce que tu as des nouvelles de ton grand-père, son mari, de ta maman, sa fille ?» Je lui ai dit « Grand-père, il rentrera pas, je ne pouvais pas lui cacher qu'il était mort quelques heures après notre arrestation. » Je lui ai dit « Quant à maman, j'ai pas plus de nouvelles que toi. » Ce qui était vrai dans l'absolu, mais moi je savais très bien que si 2 mois et demi après la capitulation sans condition de l'Allemagne, elle n'avait pas donné signe de vie, c'est qu'elle n'était plus de ce monde. Parce que nous, on avait pu envoyer des télégrammes de Suède pour dire qu'on y était. Donc ma grand-mère l'a deviné tout seul par la suite. Voilà. Voilà le récit tel que j'avais à vous le donner. Et maintenant, vous me posez toutes les questions que vous pensez devoir me poser. N'ayez pas crainte, allez-y. N'importe quelle question qui vous vient à l'esprit, aucune n'est ridicule. Vous parlez un peu fort parce que j'entends pas. Non, on l'a su quelques jours après. Pour nous, ça a été un dimanche normal. Puis de toute façon, à Auschwitz, il n'y avait que des hommes. Hein. Alors, on ne sait pas. Mais sûrement, ils n'ont rien fait de spécial pour les enfants. Hein. Juste le fait de ne pas nous faire travailler. Comme ils ne nous aient pas travaillé dimanche. Hein. Bon, ben voilà. C'était pour jour, hein. Pour eux, un jour férié, donc ils ne nous ont pas fait travailler. Ben même en travaillant, on essayait de dire quelques mots si on était à côté de Français, parce qu'il y avait toutes les nationalités, depuis les Grecs jusqu'aux Hollandais. Hein. Tout le monde était dans ce camp. Donc chacun parlait sa langue. Hein. Donc on restait entre francophones, donc Français, puis les quelques Belges francophones qui pouvaient être là aussi. Mais on ne se comprenait pas entre nous, ce qui pouvait créer des incidents du reste. Mais enfin, voilà. Mais on ne faisait rien d'autre, mais quand on se promenait dans le camp le dimanche, par exemple, quand on travaillait, il fallait qu'on soit à côté d'un Français, on était pliés en deux, on ne se parlait pratiquement pas. Et puis quoi se dire? On n'avait pas grand-chose à se dire.
Est-ce que vous êtes
fait
des amis ou vous êtes attaché à des personnes?
Est-ce que?
Vous êtes
Oh, là-bas dans le camp, bien sûr qu'on était tous amis, hein, on ne se battait pas entre nous. Mais il faut dire qu'on s'est très vite perdu de vue quand on est rentré à Lyon. Mais à Lyon, de mon convoi, hein, de ceux qui sont entrés par le paquebot, de Lyon, on était une dizaine. Hein. Mais on s'est très vite perdu de vue. D'abord, on n'était pas de la même génération pour la plupart. Hein. Moi, je suis rentré, j'avais 16 ans, j'étais un étudiant encore. Eux, c'était des adultes, on n'avait pas la même vie. Il y en a qui ont eu la chance de retrouver leur famille, qui n'étaient pas là quand ils ont été arrêtés, qui étaient cachés à la campagne ou ailleurs. Bon, d'autres qui ont retrouvé personne, mais qui ont refait leur vie, c'était des adultes déjà. Et puis d'autres ben, qui n'avaient plus de famille à Lyon, qui sont partis de Lyon. Donc ils ont rejoint des oncles ou des cousins qu'ils avaient ailleurs en France. Donc on s'est très vite perdu de vue.
Thomas, mais si vous avez changé de nom, comment ils ont fait pour vous trouver ?
Ben, je m'appelais Blachet quand j'ai 10 ans sur ma carte d'identité. Mais après, j'ai jamais changé de nom. Ils m'ont naturellement redonné mon vrai nom. Mais je me suis toujours appelé Bloch. J'ai jamais changé. Je n'ai pas fait comme Dassault, qui lui aussi s'appelait Bloch. Et qui lui, ça s'appelait Dassault. Après.
Il y a Dylan, ensuite, il y a une question.
Vous avez encore des contacts des gens qui étaient dans le même camp que vous ?
Non. En même temps, non. Des rescapés d'Auschwitz, il y en a pratiquement plus à Lyon. Je fais partie de l'amicale des rescapés d'Auschwitz, mais maintenant, ce sont les familles surtout qui sont adhérents. Mais des rescapés eux-mêmes, bon, on est 3 ou 4 d'ailleurs. D'Auschwitz.
Comment vous avez fait pour survivre à la chambre à gaz ?
Pour survivre ? Ah ben, parce que j'ai pas été désigné pour y aller. Mais j'ai pas survécu à la chambre à gaz. On pouvait pas en survivre. Quand vous êtes gazé, vous êtes gazé. Mais j'ai jamais été désigné pour y aller. Sinon, je serais pas là aujourd'hui.
Léo. Et Lilia.
Non, Rebecca.
Est-ce que vous avez encore votre tatouage ?
J'ai toujours mon tatouage, il me gêne pas. J'y pense même pas que je l'ai. Même l'été, quand je suis en chemisette, mon manche courte, ben j'ai un tatouage. Mais je ne suis pas le seul à avoir un tatouage maintenant.
Rebecca, comment vous avez su ce qui se passait dans les chambres à gaz ?
Ben, j'ai appris après, parce que quand j'ai fait, je ne sais pas combien de voyages à Auschwitz, on avait des guides, on en a toujours, mais à l'époque, des détails comme ça, ce sont ces guides qui nous les ont expliqués. Parce que sinon, on n'aurait pas su comme ça aussi précisément. C'est ce que les guides nous ont dit. Mais ne me demandez pas combien de voyages j'ai fait depuis à Auschwitz. Là, j'en ai 4 cette année, j'en ai déjà fait un. J'en ai un autre au mois de janvier. Je parle d'année scolaire, comme dit cette année. J'en ai un autre au mois de janvier, j'en ai un autre au mois de mars, et j'en ai un autre, je crois, en avril, qui sont programmés déjà. Il peut en arriver d'autres, mais enfin. J'ai surtout beaucoup d'intervention dans les établissements scolaires.
Votre grand-mère, comment elle a fait pour survivre ? Enfin, où est-ce qu'elle s'est cachée ? Où est-ce qu'elle est allée, votre grand-mère ?
Ah, ma grand-mère, quand elle est rentrée le soir, les propriétaires lui ont expliqué ce qui était arrivé. Elle est repartie à pied. Elle marchait difficilement avec une canne. Il y a au moins 2,5 km. Elle est repartie à pied pour arriver à Saint-Clair, le quartier Saint-Clair à Caluire, hein, où elle a trouvé un tram, encore à l'époque c'était des tramways, qui l'ont ramenée en ville. Puis après, ben, elle s'est débrouillée, elle avait des cousins à Rouen. Elle est passée quelques temps à Rouen, puis après elle est allée à Feur, elle a trouvé une chambre. Mais enfin, ça a duré 2 mois, juillet et août, puisque Lyon a été libéré le 3 septembre. À ce moment-là, elle a pu rentrer à Lyon. Pendant un peu plus de 2 mois, et bon, ben, il a fallu qu'elle se débrouille comme ça.
Adam.
Mais s'en est vu, évidemment. Elle rentre le soir, on lui apprend qu'elle n'a plus de famille. Bon, elle n'avait aucune idée où on était.
Est-ce qu'il y a des gens derrière que vous connaissiez ?
Non, j'ai même pas vu les photos, mais enfin, ça m'étonnerait. Puis de toute façon, je les ai connus, je ne les reconnaîtrai pas aujourd'hui. Je ne suis pas physionomiste, alors des photos de l'époque, encore moins. Hein, je vous rencontre dans la rue, dans une heure après notre entretien, là, je ne vous reconnaîtrai pas. C'est pas que je veux pas vous dire bonjour, mais je suis pas physionomiste, voilà. J'entraînais pas les gens. Des fois, alors on me parle, je les reconnais, mais je sais pas où je les ai connus. Des gens qui me disent bonjour, oui, bonjour, je sais pas qui c'est.
J'aimerais vous poser une question par rapport au sujet du concours que les élèves ont essayé de préparer. Donc, quelles sont les formes de répression dont vous avez été témoin, ou victime, bon, je vous l'ai raconté, mais témoin avant votre arrestation?